du féminisme dans ta radio.
And we want revolution. Girls talk.
Superlative délice sur Antenne Doc.
Bande de connes.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Tous les premiers dimanches du mois à 14h.
Et en rediffusion le jeudi qui suit à 14h aussi.
Ferme ta braguette.
Et prends-en de la graine.
Superlative délice.
Superlative délice.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Superlative délice, où je suis avec Pauline.
Bonjour.
Et puis avec des copines, Camille et Abiba, qui sont venues nous soutenir.
Ouais.
Coucou.
Vous dites bonjour.
Voilà, donc pour cette nouvelle émission, on va parler de la deuxième vague du féminisme, qui est beaucoup plus courte que la précédente, puisqu'elle dure une vingtaine d'années, de 1960 à 1980 à peu près. Alors elle a été un choc considérable, avec des effets hyper rapides sur la société, aussi avec des luttes emblématiques. Donc c'est une période où il y a eu les 30 Glorieuses, avec beaucoup de changements, notamment le baby boom, où la population du coup a beaucoup augmenté. Le niveau de vie a augmenté, enfin s'est élevé, avec plus de confort et un taux d'équipement des ménages en télé, machine à laver ou même réfrigérateur qui a augmenté. C'est à cette époque-là que Moulinex a fait son entrée avec la fameuse pub Moulinex libère la femme. Bon, elle reste quand même au foyer.
Bah, hein. Icône voilà. Du féminisme, hein, Moulinex, bien sûr.
Voilà, c'est assez intéressant d'aller voir les pubs sur Internet. Donc il y a eu aussi un progrès technique et une productivité du travail, avec une hausse des effectifs dans l'industrie, et du coup plus de femmes qui trouvent un emploi. En plus, c'est le moment de la réforme du régime matrimonial de 1804, en 1965, où la femme peut gérer ses biens, ouvrir un compte en banque et exercer une profession sans l'autorisation du mari. Du coup, forcément, ça ouvre les femmes sur le marché de l'emploi. L'enseignement technique est ouvert aux filles aussi. Et de manière générale, les femmes accèdent aux études supérieures. Et du coup, parlant d'études supérieures, il y a une massification générale de l'enseignement supérieur, avec beaucoup plus de filières qui se développent, et notamment en sciences humaines et sociales. Bon, sauf qu'il n'y a pas forcément de débouchés et il y a un taux de chômage qui augmente. Donc dans l'université en général, il y a tout un problème logistique, et puis il y a des idées politiques qui émergent. Il y a toute une remise en cause de valeurs traditionnelles. C'est une crise des civilisations. C'est mai 68, voilà, qu'on connaît tous. Donc voilà pour donner un petit topo de l'ambiance deuxième vague. Et puis avant d'enchaîner sur la suite, on va s'écouter un petit morceau de musique. Wax Taylor, on a choisi Sometimes.
There can be no disgrace in the true expression of love. But without it, a man can be coarsened and degraded in mind, body, and soul. But there is no love anywhere. One cannot find love by searching for it. It comes to us unbidden when we give it to others.
Yes?
Will you play something gay?
Yes?
Oui, et du coup, c'est important ce que tu disais, l'accès des femmes aux études supérieures et le développement des sciences humaines, parce que justement, le féminisme de cette deuxième vague va se nourrir beaucoup de cet apport intellectuel. C'est vraiment le moment où il y a un bouillonnement théorique immense dans la lutte féministe. On va vraiment théoriser l'oppression, quoi. Et mai 68 va apporter aussi... Le côté politique de la chose va apporter le marxisme. Et effectivement, beaucoup de féminismes vont se mettre à penser le féminisme finalement comme une lutte de classe, à tel point que ça va même aller parfois jusqu'à penser l'hétérosexualité finalement comme une collaboration avec l'ennemi. On en parlera un petit peu plus tard. Le féminisme est envisagé à ce moment-là vraiment comme un mouvement social, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la première vague, on veut plus simplement l'amélioration de la condition, mais vraiment l'autonomisation, c'est le maître mot, et puis vraiment carrément révolutionner les rapports hommes-femmes en déconstruisant les normes, les rôles, la société phallocrate dans son ensemble, et vraiment c'est l'idée, c'est une refondation de la société, parce qu'on part du principe que l'égalité, de toute façon, elle n'est pas... pensable et envisageable dans un système patriarcal. Et c'est là où on rejoint l'antinaturalisme de Simone de Beauvoir avec son ouvrage majeur « Le deuxième sexe ». Et cette fameuse phrase qu'on connaît « On ne naît pas femme, on le devient ». Alors j'imagine que vous avez été, nous avons été nombreux et nombreuses à se demander ce qu'elle a bien pu vouloir dire par là. Et eh bien, tout simplement que l'être femme, ça n'est pas une donnée essentielle dès le départ, c'est une réelle construction sociale. Et plus que jamais, ça se confirme. Je vous propose d'écouter notre Simone expliquer ça dans une interview quand elle était un petit peu plus vieille, où elle expliquait un petit peu ça.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite. D'abord, l'histoire de la civilisation, qui a abouti à son statut actuel. Et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout... une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas, ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition.
Voilà, c'était Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Il y a une autre phrase qui a été très importante dans cette lutte, c'est « le privé est politique ». Et vraiment, c'est d'envisager la sphère privée comme vraiment un lieu de domination pour toutes les femmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le problème, il est collectif, ben la solution, elle est collective, du coup, et elle est politique. Et c'est comme ça que va se poser, en fait, et se construire cette lutte. Alors, si c'est politique, qui dit lutte politique dit pratique. Quelles étaient les pratiques à ce moment-là? Ben, la manifestation, c'est le plus évidemment la pratique la plus courante, avec des slogans tout à fait célèbres. On en connaît toutes, nous sommes toutes des avortées, nos désirs font des ordres. J'avais trouvé mariage piège à con, j'aime bien aussi. Une nana qui était rentrée dans une église pendant un mariage, pendant qu'elle défilait, ça fait hurler mariage piège à con. Il y avait quoi? Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine.
Emeline, dont on s'en souvient de quelques autres. Voilà. On n'est pas des poupées.
Oui.
Ah oui, il y a plus inconnu que le soldat inconnu.
Oui, voilà.
Sa femme.
Je pense à celle-là, mais comme je vais en reparler après, je le gardais sous le coude.
Ah mince, j'ai teasé ton...
Voilà, plus de suspense.
Donc voilà, la manifestation, les slogans, les banderoles, les pancartes, les images, on en peut en trouver plein, plein, plein. Il y a l'action directe aussi, bien sûr. Et quand j'ai réfléchi à ça, j'ai pensé à Saint-Nizier, en 75. C'était des prostituées qui avaient envahi le... Enfin, qui s'étaient emparées de l'église Saint-Nizier en 75. Des travailleuses du sexe, donc, qui en avaient vraiment ras-le-bol de la répression policière et qui voulaient se faire entendre là-dessus. Elles ont été jusqu'à 200 et elles ont tenu une semaine dans l'église à presque 200, quoi. Et elles ont été évidemment vidées par les forces de l'ordre comme des malpropres. Mais ça a fait des petits et d'autres travailleuses du sexe en France se sont regroupées et ont investi d'autres églises aussi par la suite. L'action directe, voilà. Et il y a aussi les groupes de parole, les groupes de réflexion, souvent en non-mixité d'ailleurs. Il y a une grande pratique de la non-mixité qu'on retrouve aussi pas mal aujourd'hui. On parlera peut-être dans une autre émission de quel sens ça prend la non-mixité et pourquoi. Et puis les groupes de conscience, voilà, on en parlera aussi un petit peu plus tard des groupes de conscience. Il y a eu quelques pratiques de la communauté, donc c'était un peu marginal. Les vies en communauté, bon, il y en a eu quand même, où des gens ont essayé de réinventer les rapports en réinventant la famille, en réinventant la façon de vivre ensemble, en réinventant le groupe, en fait. Puis après, tout ce qui était les pratiques collectives et les pratiques d'autogestion, que ce soit pour éditer des tracts, un journal, voilà. Et toutes ces pratiques, finalement, elles ont permis un renforcement du réseau, la construction et le renforcement d'un réseau, en fait. Et c'est ça qui aussi a peut-être, je ne sais pas, je pose la question, permis le féminisme d'aujourd'hui, qui est aussi un féminisme de réseau. Et voilà, le réseau, c'est important. Même si les mouvements féministes, ils sont nombreux, il y a plein de différences entre tous ces mouvements, et puis que en face, il y a des gens et qu'elles sont pas toutes seules. Et ça, c'est peut-être toi, Emeline, qui vas nous expliquer ça.
Comme tu le disais, les mouvements de militantisme, ils sont nés notamment avec les événements de mai 68, où on a commencé à théoriser. Et du coup, à ce moment-là, il y a eu quelques groupes déjà qui se sont formés, dont Féminin Masculin Avenir, qui a été à l'origine de notamment du MLF, du Mouvement de Libération des Femmes. Et donc ce groupe-là, Féminin Masculin Avenir, c'est un groupe féministe mixte qui organisait des débats à la fac avec des personnalités quand même, comme Gisèle Halimi, qui est une grande avocate, enfin qui était avocate et puis qui a écrit pas mal de bouquins, et qui organisait aussi des groupes de réflexion autour de tout ce qui est de l'ordre de la vie pratique avec le travail ménager, tout ça. Et puis plus théorique aussi sur le rôle de la représentation sexuelle dans le contrôle des masses. Donc là, c'était beaucoup plus philosophique. Donc ce groupe-là, il a notamment donné naissance au MLF, qu'on connaît, quand on parle de deuxième vague, on parle forcément de MLF. C'est important quand même de savoir qu'il n'y a pas eu que ce mouvement-là, même s'il a été le principal. Alors celui-ci, donc, il est issu de plusieurs groupes et plusieurs collectifs et plusieurs courants. Il est révolutionnaire dans le sens où, comme tu le disais aussi, Pauline, les féministes de cette époque, elles sortent vraiment, en général, d'organisations et elles ont une pensée maoïste ou trotskiste. C'est un mouvement, donc on n'y adhère pas et ça se veut sans leader. Bien que il y ait quand même des figures qui se détachent de par leur légitimité professionnelle, médiatique ou intellectuelle, comme Simone de Beauvoir ou Christine Delphi, qui est sociologue et qui a été l'une des principales théoriciennes de cette deuxième vague. Alors le MLF, pour revenir un peu aux origines, il est né le 26 août 1970. Alors cette date, elle n'est pas prise au hasard. En fait, ce jour-là, aux États-Unis, il y a une manifestation pour le 50e anniversaire du droit de vote des femmes. Et donc, elles revendiquent aussi, enfin, elles et ils, les féministes, revendiquent l'égalité homme-femme et manifestent contre le devoir conjugal. Et en fait, en France, ce même jour, il y a un soutien des Américaines et Américains. Et il y a 10 militantes qui déposent une gerbe de fleurs sous l'arc de triomphe à la femme du soldat inconnu, avec des banderoles où il y a notamment écrit « Il y a encore plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme, ou bien un homme sur deux est une femme ». Voilà, bon, c'est une histoire qui finit au commissariat, je sais pas exactement les suites. Et en tout cas, le lendemain de ce jour-là, les journaux titrent « La naissance du MLF ». Voilà, ce mouvement, il a un journal féministe, Le Torchon Brûle, qui est édité entre mai 71 et juin 73. Et les articles sont aussi écrits de manière anonyme, voilà, ou seulement avec des prénoms. Mais finalement aussi, on retrouve quand même ces... assez vite les mêmes personnes qui écrivent dans le journal. Voilà. C'est un mouvement
c'était
qui...
C'était des pseudos ou on retrouve...
C'était des pseudos. Mm. Ouais, c'était des pseudos quand même. C'est un mouvement donc, qui s'est organisé assez rapidement puisque dès l'automne 1970, il y a eu des AG organisés tous les 15 jours aux Beaux-Arts. C'est un mouvement aussi qui est très fluide malgré quelques conflits internes entre des féministes plutôt révolutionnaires, universalistes de la lignée de Simone de Beauvoir et des féministes plus de la pensée de Antoinette Fouque qui est psychanalyste et qui a créé un groupe psychanalyse et politique qui cherche à faire émerger la spécificité féminine plus par la psychanalyse justement et le travail sur soi. Donc
ça me plaît pas beaucoup ça.
Voilà.
Voilà. Dit comme ça, donc... ça me plaît pas beaucoup. On va attendre de voir ce que t'en dis. Mais...
C'est à creuser, j'en dirai pas plus. Maintenant, mais
ça vaut peut-être pas le coup d'en dire plus, cela dit.
Mais Antoinette Fouque, ceci dit, elle a quand même créé aussi l'édition des femmes et la librairie des femmes. Enfin, en tout cas, l'édition des femmes. Pour la librairie, je suis plus très sûre, mais l'édition des femmes, donc, qui existe encore et puis qui propose plein d'ouvrages chouettes. Donc, voilà.
Une biographie de Thérèse Claire aux éditions Antoinette Fouque.
Ben voilà, par exemple. Donc, malgré ce groupe psychanalyse et politique, elle fait des choses bien. voilà, donc bon, malgré quelques conflits, mais finalement, c'est assez général quand même dans tous les mouvements, dans tous les groupes. C'est pas spécifique au MLF. Il reste fluide dans le sens où on peut quand même aller passer d'une réunion à une autre, d'un groupe à un autre. Voilà, c'est assez libre comme mouvement. Voilà, donc pour le MLF, grosso modo. Il y a quand même donc d'autres mouvements et d'autres luttes, et notamment les luttes homosexuelles qui sont nées dans les années 70. Avec deux groupes assez emblématiques, c'est les Gouines Rouges et le FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Alors, dans les luttes homosexuelles, il y a quand même deux pensées. Il y a celle, parce que du coup là c'est plus des femmes quand même, homosexuelles. Il y a celle qui pense que s'autodéfinir homosexuel c'est quand même se mettre en marge. Et du coup, elle ne le revendique pas vraiment. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que c'est l'application de la formule « le privé est politique », dans le sens où le féminisme, c'est la théorie, et le lesbianisme, c'est la pratique. De là, il y a le lesbianisme radical qui émerge. Là, c'est toute une remise en question de la sexualité, et puis plus généralement de la société dans son ensemble, dans tout ce qu'elle a de... plus fondamentale, la famille, les enfants, la reproduction, l'économie. C'est une critique très très forte de la féminité aussi. Le lesbianisme radical attaque quand même le féminisme comme une forme de collaboration avec les hommes, donc c'est quand même ce que tu disais tout à l'heure. Et finalement, être lesbienne, c'est vraiment un choix politique. Voilà. Et tu parlais de communauté aussi. Et du coup, il y a certaines lesbiennes qui ont formé des communautés dans de nombreux pays, pas qu'en France, où elles se regroupaient dans des régions rurales et plutôt isolées, et du coup, avec tout plein de principes écolos et décroissants aussi.
Par rapport au lesbianisme radical, il y a une phrase, tu sais, c'est « les lesbiennes ne sont pas des femmes ».
Oui.
Et ben, c'est un petit peu ça que ça dit. C'est Monique Wittig qui a dit oui. ça. Et du coup, l'idée, c'est d'aller au-delà des catégories de sexe et de le prendre... Que en fait, c'est plus une simple pratique sexuelle, mais que c'est une vraie résistance, en fait, à l'ordre phallocrate, dans le sens où les lesbiennes, elles vont échapper à l'appropriation, en fait, de leur corps, au moins dans le privé, parce qu'en en fait, dans le public, elles se font agresser pareil, et elles sont discriminées pareil. Mais de cette appropriation dans le privé par les hommes. Et que du coup, c'est une forme de résistance à un rapport d'esclavage... ce qui est vécu comme un rapport d'esclavage.
Ouais.
Et il y a un article là-dessus sur GSS, sur Internet. C'est une revue qui s'appelle Genre, Sexualité et Société.
D'accord. Voilà. Okay. Et du coup, on peut peut-être vous lire un petit passage. C'est ce qu'une lesbienne a dit lors d'une rencontre lesbienne. Voilà, où elle dit « Le lesbianisme... c'est la résistance à l'hétéro-oppression. C'est d'abord une pratique de solidarité fondamentale entre femmes. Toute notre affectivité se tourne vers les femmes, pour les femmes, avec les femmes. Aucun bénéfice pour l'oppresseur. C'est le refus de la féminité. Nous refusons d'humaniser l'oppresseur. Nous ne voulons pas pactiser ni collaborer, car nous savons le prix à payer. La perte de nos capacités de vie, la trahison de notre classe. Toutes les femmes doivent devenir lesbiennes, c'est-à-dire solidaires, résistantes et non collaboratrices. La sexualité, la possibilité de désirer s'inscrivent toutes seules après. » Voilà, je pense que le message est assez clair. Donc voilà, il y a ces luttes homosexuelles donc, qui ont quand même du mal à s'organiser et qui s'affaiblissent, les groupes, le mouvement s'affaiblit assez facilement. Mais voilà, il y a quand même des groupes qui persistent avec toujours l'envie de créer des lieux conviviaux de rencontres. Voilà, il y a aussi comme mouvement, il y a le féminisme noir qui naît aux États-Unis aussi. Et en fait, c'est la mixité des origines dans le féminisme qui pousse à nuancer l'étiquette du féminisme occidental. Donc ce féminisme noir, grosso modo, c'est une double lutte pour la libération des noirs et des femmes. Et elle montre, le féminisme montre, la nécessité de lutter contre une oppression commune à toutes les femmes et de toutes les origines. Donc il y a pas mal de collectifs qui naissent et qui interrogent tous les rapports de domination. Noir, blanc, hétéro, homo, homme, femme... et même qui interroge la domination entre les féministes noires et les féministes blanches, parce que mine de rien, il y a quand même des féministes blanches qui ont toujours cette image de la femme noire, c'est la nounou ou la pute. Donc c'est tout ça qui est en ébullition, quoi, et qui fait que y a plein de collectifs qui naissent. Et voilà. Bon, après, ce féminisme noir, de toute façon, je pense qu'on en reparlera dans la troisième vague, parce que...
On parlera d'Angela Davis.
Voilà.
Que tu as eu la chance de rencontrer.
Parce que...
Emeline a rencontré Angela Davis. Il faut quand même le dire.
Ouais. Bon, pas personnellement, il y avait des centaines de personnes avec moi. On pourra en parler. et dans cette même lignée, il y a les femmes immigrées en France qui s'organisent aussi, qui subissent aussi la double discrimination d'être à la fois immigrée et à la fois femme. Et donc là, c'est pareil, il y a tout plein de groupes et de collectifs qui se montent, notamment les femmes africaines et antillaises, et puis les femmes maghrébines aussi qui s'organisent séparément. Il y a des assos pour les Marocaines d'un côté et des assos pour les Algériennes de l'autre. Voilà, bon, mais ça aussi, on pourra en reparler, je pense, dans l'émission pour la troisième vague, parce qu'à partir des années 80, il y a le nombre d'immigrés qui augmente en France, dans un contexte hyper tendu socialement et économiquement, et puis avec la montée du racisme, et du coup, ça va donner naissance à plein de groupes.
L'émission sur la troisième vague, elle va durer 16 heures à peu près. Hein.
Voilà, c'est ce qu'on n'a pas
dit. Ce qu'on n'a pas dit. Hein.
Oui, oui. Il y a quelque chose qui est un peu important quand même, à mon sens, c'est que le féminisme, il n'a pas non plus toutes les portes ouvertes, qu'il y a des gens qui font un peu barrage, et notamment les catholiques et les communistes. Donc du côté des catholiques, il y a l'Union féminine civique et sociale qui à la fois pousse l'investissement politique, et notamment au niveau municipal, et en même temps qui est complètement opposée à la contraception. et qui est à fond pour le maintien de la femme au foyer, pour la maternité, tout ça. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un manuel scolaire encore en ligne sur Internet, donc je vous invite vraiment, vraiment à aller le voir. Et, c'est assez édifiant. Et donc, c'est un manuel scolaire catholique, dans les années 60, hein, d'économie domestique pour les femmes. Et donc, grosso modo, on a la journée type de la femme parfaite.
C'est une journée de rêve, je suppose.
C'est une journée de rêve. Bah ouais, oui, bien sûr. Oui. Tout pour le mari, pour les enfants, il ne faut pas faire de bruit, il faut se lever avant tout le monde, il faut se coucher après tout le monde. Enfin voilà, c'est tout ce que...
Le bonheur.
Tout
quoi.
Ce dont les la femmes rêvent. Voilà. Et puis du côté des communistes, c'est pas triste non plus, il y a l'Union des femmes françaises qui donne un rôle central à la maternité aussi, qui défend quand même l'égalité dans le monde du travail et dans la famille.
Bah quand même, les communistes, voilà. Ou les communistes.
N'oublions pas qu'on est en pleine guerre froide. Et donc, les communistes, ils sont contre l'impérialisme américain. Bon, je vous la fais en très, très raccourci. Mmh. Et dans ce sens-là, ils sont complètement opposés au contrôle des naissances. Parce que déjà la contraception elle est vue comme bourgeoise et américaine. Mmh. Et puis en plus après ça nourrira aussi un discours anti-IVG parce que finalement il faut pas avorter pour faire des petits soldats révolutionnaires,
des travailleurs
soviétiques contre les Américains et tout et tout. Voilà un peu pour tous les groupes. Bon, grosso modo, hein, c'est...
On va parler de libération sexuelle, avec des guillemets, mais... on va peut-être écouter la musique avant.
Ouais, peut-être qu'avant, on peut s'écouter...
Mais je sais plus quoi, tu te souviens ?
Ben, l'hymne du MLF.
Ben voilà, voilà. Par exemple. Biba, elle est contente.
Nous sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes... Nous sommes le continent noir, debout femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorée. Ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous, debout femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé, connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 debout.
Ça a bien chanté là dans le studio pendant l'hymne du MLF. On va parler un peu de... On va rentrer un petit peu plus dans le vif, encore plus dans le vif du sujet. On va parler de cette fameuse libération sexuelle avec plein de guillemets. Bah oui, parce que... voilà, on va se demander ce que c'est cette libération sexuelle qui est dans l'imaginaire collectif les années 70, libération sexuelle, les fleurs dans les cheveux. Bon, on va essayer de voir un petit peu de quoi on parle, en fait, quand on parle de libération sexuelle. Est-ce qu'elle a eu lieu et est-ce qu'elle est terminée? À titre personnel, je préfère de parler plutôt d'une révolution du corps par rapport aux réformes qui vont passer et à la transformation qui va y avoir dans la société. Alors en fait, quand on parle de libération sexuelle, donc, en fait, ça désigne deux choses. Ça va désigner d'abord une diversification des comportements et des identités sexuelles, et ça va aussi désigner les revendications en fait qui favoriseraient en fait une liberté sexuelle plus grande. Donc ça passe par s'affranchir de la morale religieuse et familiale qui est assez pesante. S'affranchir du poids de la médecine aussi et de la science, donc le système des docteurs et des gens qui savent en fait comment, ce qu'il faut faire de son corps, et des psychanalystes. Donc tout ce poids de cette explication psychanalytique sur l'envie du pénis et l'instinct maternel, on commence à en avoir un petit peu ras-le-bol de ce truc-là, et puis on sait aujourd'hui que c'était une large foutaise aussi. Et puis ça passe aussi par s'affranchir de la reproduction, finalement de dissocier un petit peu, de décorréler, je ne sais pas si ça se dit, la sexualité et la reproduction. Et c'est ce que commence à prôner dès 1956 Maternité Heureuse, qui est le précurseur du planning familial. Emeline en parlera sûrement tout à l'heure. Et puis encore avant 1956, il y avait cette fameuse Simone de Beauvoir, qui contestait déjà en fait les discours sur la sexualité féminine et qui remettait déjà en question l'instinct maternel. Donc vraiment ça va s'affirmer. Évidemment, le marxisme va se mêler de sexualité, la sexualité va être envisagée de manière politique, évidemment, et en fait le contrôle de la sexualité finalement est vu comme au service de l'ordre capitaliste. Voilà, et la reproduction, en fait, elle est pensée comme une forme d'esclavage, finalement, de travail forcé qui n'est pas du tout reconnu, pour le coup, et qui implique, du coup, qu'on domestique la sexualité des femmes, qu'on la domestique, ou alors carrément qu'on la nie ou qu'on l'écarte totalement, en fait, le mariage étant se résumant à un échange économico-sexuel, quoi. Mm. Et donc, je veux pour preuve de cette appropriation sociale du corps de la femme, donc par toute la société finalement, c'est le viol en fait. Il est évidemment hors la loi, hein, c'est interdit, c'est pas bien, faut pas violer. Mais il est considéré comme une atteinte aux mœurs, donc comme une atteinte à l'honneur et à la moralité des familles en fait, plutôt que comme une atteinte à la personne. C'est-à-dire que l'idée que la femme est victime, elle n'existe pas vraiment, quoi. C'est une atteinte aux mœurs et à la moralité des familles.
C'est la honte, quoi.
C'est la honte, c'est le déshonneur, ouais.
Du coup, on peut le faire, mais il ne faut pas le dire, peut-être.
Et ça a peut-être aussi beaucoup contribué à enfermer le viol dans le silence, et il n'en est toujours pas sorti, quoi.
Ouais.
Et donc, dans les faits, du coup, même si le viol est interdit, en termes de justice, il ne se passe jamais grand-chose, quoi. À moins qu'il y ait une grossesse. Alors là, il peut peut-être passer quelque chose. Mais... enfin, bref. Et donc, dans les années 70, du coup, le viol va sortir du privé et devenir politique, lui aussi. Et il y a quelques grands procès qui vont révéler au grand jour à quel point, finalement, les femmes victimes sont mises carrément en accusation, finalement, de pas s'être assez défendue, d'avoir été imprudente, hein, d'être sortie tard, d'avoir été habillée un petit peu court à une heure où c'était pas l'heure de le faire. Donc, quelque part, les victimes vont être un peu mises en accusation de manière à ce que les violeurs ne soient pas totalement considérés comme des fautifs, quoi. J'ai envie de te dire que ça n'a pas tellement changé.
Oui, c'est ça, oui.
Hein, on est loin... Donc voilà, donc il y a énormément de revendications autour de ça, et ce qui va déboucher à la loi de 1980 finalement, qui va, alléluia, introduire la notion de consentement, ou d'absence de consentement dans l'idée du viol, alors qu'avant la notion qui était attachée au viol, c'était la notion de coït illicite.
C'est mignon.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, coït illicite. Voilà. Donc c'est qu'à partir de 1980 qu'on va enfin reconnaître que...
On a un mime du coït illicite.
Ah oui, alors Fred à la technique nous mime un coït illicite avec une très grande grâce. qu'est-ce que je disais, moi ? Voilà. Ah, oui. Voilà.
Bon, du poli.
Merci, la loi de 1980. Donc voilà, appropriation sociale du corps des femmes. D'où la réaction aussi du lesbianisme radical dont on a parlé tout à l'heure. Du coup, il y a une pratique qui va se développer, qui s'appelle les groupes de conscience et qui vont être un moyen assez intéressant, je trouve, de s'affranchir de de l'appropriation de son corps, en fait. C'est-à-dire que les femmes vont se regrouper en non-mixité, bien sûr, et elles vont se mettre à observer leurs organes génitaux, donc à la fois externes et internes. Elles vont utiliser des spéculums, aller regarder comment elles sont faites, en fait, et puis voir parfois expérimenter le plaisir. Donc ça, c'est un vrai acte de réappropriation, et c'est des choses qui se pratiquent aujourd'hui dans des milieux féministes de plus en plus, dans les rencontres féministes, etc. On trouve des ateliers type Mattachat, ce genre de choses. Donc à l'époque, ça s'appelait pas Mattachat, ça s'appelait Self-Help. Voilà, parce que ça nous vient des USA, d'un collectif de Boston qui a développé ça. Ça a eu vachement de succès aux États-Unis, un petit peu moins en France, mais quand même. Et donc elles ont ce collectif de Boston a écrit une bible du self-help qui s'appelle Notre corps nous-mêmes en 77. Et tout à fait par hasard, hier, j'ai trouvé une édition originale de Notre corps nous-mêmes. Je suis très contente. Donc voilà, ça c'est une vraie éducation sexuelle féministe et qui s'inscrit vraiment dans le refus de la figure de l'expert, de la personne qui va savoir à ta place comment ça marche. Et en ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, on peut peut-être du coup parler un petit peu, je sais pas, du planning familial.
Oui, par exemple.
Ouais.
Du coup, tu le disais, le planning familial, c'est la maternité heureuse, en fait, l'ancêtre du planning familial. Et la maternité heureuse, elle est ni politisée, ni pour le contrôle des naissances. Elle est surtout pour une amélioration des conditions de grossesse et d'accouchement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a la loi 1920 encore, qui interdit toute promotion de la contraception et qui punit l'avortement. Donc, la maternité heureuse reste très prudente par rapport à cette loi. Et puis, en 1960, donc, ça devient le MFPF, le Mouvement Français pour le Planning Familial, qui est une association loi 1901, et qui, lui, revendique ouvertement le droit à la contraception, donc qui est complètement illégal. Le planning familial ouvre ses portes... voilà, il y a plusieurs plannings familiaux quoi, qui ouvrent leurs portes un peu partout en France, à Grenoble et à Paris, en premier, et qui utilisent toutes les voies possibles pour faire venir des contraceptifs en France, des pays anglo-saxons, qui sont toujours en avance par rapport à nous. Et c'est aussi le planning familial.
C'est quoi, elle faisait rentrer des diaphragmes, en fait, c'est ça ?
Ah oui, voilà. Oui. Du coup, par les voyages ou par des connaissances qui faisaient ce trajet-là, ils cachaient dans les valises, comme on pourrait cacher de la drogue aujourd'hui, des diaphragmes.
Ça valait de l'or. Hein.
Ouais, complètement, ouais. Des gels spermicides aussi. Et des pilules.
Ouais, il y en avait.
Ouais, il y en avait. Voilà. Donc, c'était totalement illégal. Mais finalement, ça a quand même permis de faire un premier petit bilan qui a montré que le nombre d'adhérents et d'adhérentes au planning familial a augmenté. Et puis, les femmes qui utilisent les contraceptions et la pilule, notamment, augmentent aussi. Et du coup, c'est donc ce premier bilan-là qui montre que la loi 1920, elle devient un petit peu obsolète. Voilà. Et finalement, il y a tout plein d'événements par la suite qui vont montrer qu'elle devient carrément obsolète. Donc, suite à ce premier bilan, il y a la loi Neuwirth qui est voté à... Enfin, suite à, au premier bilan, il s'est passé quand même pas mal d'autres choses hein, pour qu'elle passe, pour qu'elle soit votée. Mais en tout cas, c'est le 19 décembre 1967 qu'elle est votée. Bon, son application sera lente parce que les décrets, ils ne paraîtront qu'entre 1969 et 1972. Voilà, mais on a quand même gagné ça.
Mmh. 10 ans, hein, il a mis...
Ouais, je, justement, je sais pas si t'en sais plus par
rapport à... Il s'y est mis en 57 à la défense, voilà. Alors il a ramé 10 ans pour qu'elle passe. Ouais.
Voilà.
Il était surnommé Lulu la pilule.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, la loi... du coup, la loi Neuwirth, donc
sur la contraception.
Lulu la pilule, en fait, c'est Lucien Neuwirth qui a fait passer cette loi et qui autorise la contraception, notamment orale. Donc, ça y est, les femmes peuvent prendre la pilule librement. Donc, c'est quand même un premier événement qui donne beaucoup d'ampleur au combat suivant, qui est celui pour le droit à l'avortement. Ce combat-là, il y a plusieurs groupes qui s'en emparent. Donc le planning familial, le MLF et le GIS. C'est un groupe information santé. Donc qui est formé de médecins qui se sont rencontrés pendant les événements de 68. Et ce groupe-là pratique très vite la méthode Carman. Alors cette méthode-là, c'est une méthode artisanale pour avorter. Qui est simple, gratuite et sans danger, qui est très accessible en fait. On n'est pas obligé d'être médecin pour pratiquer cette méthode. Et du coup, c'est à l'aide de canules et de seringues que...
Et un petit aspirateur.
Et un petit aspirateur, voilà. Bon, après exactement tous les détails, on les a pas, mais enfin, on va pas expliquer... Enfin, moi, je me sens pas d'expliquer ça tout de suite maintenant, mais... Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir vraiment de cette méthode, c'est qu'elle est très très simple d'application.
Oui, alors Emeline, quand même, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que les avortements avaient quand même lieu avant le passage de la loi et que c'était des avortements clandestins. Et que du coup, il fallait rencontrer la bonne personne qui avait le bon contact avec un médecin qui faisait ça clandestinement ou une femme qui faisait ça de manière artisanale. Donc, on a toute l'image un peu, tu sais, du cintre ou de l'aiguille à tricoter, ce qui se faisait. Et souvent, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait des sondes urinaires, en fait, qu'on plaçait au niveau du col de l'utérus afin de le dilater, ce qui crée une hémorragie en fait. Et l'idée c'était de provoquer cette hémorragie en plaçant cette sonde et de trouver le bon moment pour filer à l'hôpital, parce que ça veut dire c'est-à-dire que si tu arrives trop tôt à l'hôpital, ben c'est pas vraiment une fausse couche et on peut sauver ta grossesse. Et si tu arrives trop tard, et ce qui arrivait régulièrement, tu pouvais y rester. Il y a beaucoup de femmes qui dont on n'a pas pu arrêter l'hémorragie et qui sont mortes. Voilà, et du coup il y a eu cette fameuse méthode Carman qui était aussi clandestine mais qui était vachement plus safe finalement, mais qu'elle a été utilisée juste 4-5 ans, surtout par les meufs du MLAC en fait, aidées par les médecins du GIS, et elle se fabriquait avec des petits moteurs de frigo, elle se fabriquait ce petit aspirateur Carman qui marchait vraiment très très bien, mais ça n'a été fait que 4 ou 5 ans et c'était fait vraiment à la maison entre femmes, ambiance détendue, on se tient la main, on boit un bon thé chaud après et là sur ces pratiques là il n'y a eu vraiment aucun problème quoi. Voilà, c'est une petite parenthèse.
Ensuite, en événement quand même assez fort, il y a le manifeste des 343 qui va être publié dans le Nouvel Observateur. Ce manifeste-là, en fait, il est initié par le MLF et c'est Simone de Beauvoir qui le rédigera. Et en fait, c'est un manifeste dans lequel les femmes déclarent avoir avorté. Voilà, donc encore une fois, la loi de 1920, elle devient vraiment...
Caduque.
Caduque, ouais. D'autant plus qu'il y a quand même 252 médecins qui soutiennent ces femmes à ce moment-là. Donc sans avoir, pour l'instant, sans avoir avoué avoir pratiqué des IVG.
Et y compris des médecins catholiques.
Oui, aussi, c'est vrai. Ouais, ouais. Et en plus, après ce manifeste, il n'y a aucune femme qui est inculpée. Bon, il y en a quelques-unes qui connaîtront quelques soucis avec leur employeur, mais aucune n'est inculpée. Suite à ce manifeste, il y a Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir qui vont créer l'association Choisir, qui est faite pour défendre gratuitement les femmes qui auraient des litiges après le manifeste, justement. Ensuite, ben, il y a le procès de Bobigny, qui est hyper emblématique de la lutte pour le droit à l'avortement. C'est le procès de Marie-Claire, de sa mère, de complice et de l'avorteuse. En fait, Marie-Claire a 16 ans au moment des faits. Elle est victime de viol. Et suite à ce viol, elle tombe enceinte, parce que pour le coup, c'est une fatalité. Et donc, avec l'aide de sa mère, elle va se faire avorter. Et en fait, ce procès-là, il devient vraiment le procès politique pour le droit à l'IVG.
Alors, le plus cocasse, c'est qu'elle est dénoncée par son violeur. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. C'est ça qui est quand même bien. J'ai oublié le c'est lui qui va la dénoncer. Il est arrêté parce qu'il a volé un portefeuille, je sais pas quoi. Et il allait dire que sa copine avait avorté.
Ouais. Donc, pendant ce procès... Alors, le procès se passe en huis clos. Et en fait, il y a énormément de soutien de la part de, ben déjà, de personnalités assez connues, des auteurs, des médecins, des journalistes, voilà. Et puis de plein de militantes et militants qui restent dans la rue et qui crient des slogans qu'ont entendus à l'intérieur du tribunal. Finalement, Marie-Claire est relaxée et les autres aussi. Ben voilà, encore une fois... on ferme un peu plus la porte à la loi de 1920, puisque l'avortement est pas devenu public, mais il est montré au grand jour.
Alors, je ne sais pas si je peux faire un petit rebond
oui, tu
sur
peux.
Ce que tu disais, donc l'IVG qui arrive à passer, mais avant ça, donc, ça a bloqué la loi de 1920, IVG totalement interdit, sauf pour les femmes noires.
Ah oui.
Alors c'est quand même assez incroyable ce scandale, ça a duré pendant toutes les années 60 je crois, et ça se passait à La Réunion, hein. Donc, et ça a éclaté dans les années 70 ce scandale-là. Il y a en fait, à La Réunion, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers de femmes noires et pauvres, hein, qui ont été avortées et stérilisées sans leur consentement. Des fois elles l'ont découvert bien plus tard. Elles arrivaient à l'hôpital parce qu'elles avaient mal au ventre, elles repartaient, elles avaient plus de bébé et plus d'utérus, quoi.
Plus d'utérus, carrément.
Les trompes... ouais. Les trompes
Ah oui, voilà, on les stérilise.
Quoi. Voilà. Et le tout avec la bénédiction des pouvoirs publics, ce qui est quand même tout à fait formidable. Alors, c'est pas anecdotique, hein, c'est quand même 8000 femmes par an à La Réunion, hein, qui ont subi ça. Comment ? Oui, à La Réunion, oui, donc en France, on est d'accord. Oui, La Réunion, c'est bien la France, on est d'accord. Et donc voilà, en fait, c'était donc les médecins à La Réunion, c'était des blancs bien riches. Et ils étaient, on a découvert que c'était donc l'État, avec, donc financé par la Sécu, hein, qui a pratiqué ces avortements et ces stérilisations. Et les médecins ont gagné beaucoup d'argent là-dessus. Et au cœur du scandale, il y avait Michel Debré, qui était ministre, donc, et qui était aussi, qui a longtemps été député de La Réunion, et qui, pour le coup, lui, c'était un anti-IVG farouche,
pur et dur,
convaincu, pur et dur, quoi. Vraiment, il était vraiment dans l'idée, la procréation, c'est la mission des femmes, et les couples doivent procréer. Par contre, chez les créoles, ça lui posait moins de problèmes, parce qu'il avait un problème de démographie sur l'île de La Réunion. Et il estimait que les femmes noires... Alors, je vais le citer, hein, c'est pas moi. Il parlait des femmes noires et de leur sexualité tropicale débridée. Mmh. Voilà.
Tout aussi intéressant que le coït illicite.
Voilà.
Ce genre de petite phrase. Oui, voilà, oui.
Donc, voilà, l'IVG...
Ouais, qui est un combat en France et qui est un crime en France, quoi.
Voilà. C'est ça.
Ouais, bah, merci Pauline pour ta charmante intervention. On continue le combat mené en France ?
Oui.
Métropolitaine, en tout cas. Ben, donc voilà, il y a eu ce procès de Bobigny. Et puis, il y a eu aussi un autre manifeste qui est celui des 331 médecins. Et donc, c'est dans ce manifeste-là qu'il déclare avoir pratiqué l'IVG. Ensuite, il y a le... Enfin, ensuite ou en même temps, hein. Il y a le MLAC, qui est hyper important aussi dans ce combat-là. C'est le Mouvement pour la Libération de l'Avortement et la Contraception, qui est un regroupement d'associations. Alors, le GIS, le Groupement Information Santé, le MLF, le Planning Familial, les signataires du manifeste du 343 et celui du 331, plus certains syndicats et certains partis politiques comme le Parti Socialiste, la Ligue Communiste Révolutionnaire et la Lutte Ouvrière aussi. Voilà, donc le MLAC pratique des IVG grâce à la méthode Carman. Il accompagne aussi des femmes, donc c'est de l'ordre de 200 femmes chaque semaine pour avorter en Hollande ou à Londres, où c'est beaucoup plus facile, bon, à part le trajet. Et puis, ben, ça rejoint ce que tu disais, Pauline, c'est qu'il revendique vraiment une non-médicalisation et une réappropriation de leur corps. En fait, ils veulent vraiment donner aucun pouvoir à la médecine sur leur corps et leurs décisions.
Du coup, voilà. Elles pratiquent aussi des accouchements, je crois, hein,
oui,
dans cette idée-là. Et elles ont même continué à le faire après le passage, ouais, voilà, de la loi. Ouais.
Oui, oui, complètement. Complètement, parce que bah, du coup, toujours dans cette idée-là, elles vont continuer à le faire jusqu'à dans les années 80 à peu près, toujours de manière illégale, du coup, puisque la loi est passée, mmh, et qu'elles n'ont plus à, ouais, à pratiquer d'IVG. Mais elles le font quand même, bah, toujours pour ce refus de la médicalisation. Mmh. Donc, il y a aussi le planning familial qui décide à pratiquer des IVG illégaux. Et du coup, c'est le moment de légiférer. C'est là où Simone Veil entre en jeu et qui entame un combat acharné au sein de l'Assemblée. Une assemblée hyper hostile, faite quand même de 469 hommes et de 9 femmes. Hyper hostile aussi, surtout par ses arguments. Alors, il est dit que d'ouvrir des avortoirs, c'est comme d'ouvrir des abattoirs. Où il est dit que les médecins nazis, enfin les médecins qui pratiquent l'IVG sont des médecins nazis. Et puis il y a
dire
aussi...
Dire ça à Simone Veil, c'est quand même d'une indécence.
Bah voilà, bah justement, il y a aussi pas mal d'attaques personnelles par rapport à la vie privée de Simone Veil, qui est quand même une rescapée des camps nazis. Donc voilà, on marche un peu sur la tête quand même, hein, à ce moment-là. Alors Simone Veil, pendant tout ce débat à l'Assemblée, en fait, elle insiste essentiellement sur la responsabilisation de la femme et elle entame aucun débat sur l'éventuelle humanité de l'embryon ou sur le droit des femmes, parce qu'elle sait que de toute façon, ce serait un peu peine perdue. Voilà, donc c'est après 5 jours, je crois, de débat que le projet de loi est voté et adopté, donc en novembre 1974. L'avortement est dépénalisé, mais que pour 5 ans, avec beaucoup de conditions. Des conditions qui, de toute façon, resteront une lutte à mener jusqu'à aujourd'hui. Enfin, tout au long des années jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a eu plein de modifications de la loi. Et puis, on peut encore se demander quand même si elle est vraiment bien appliquée. Mais bon, je pense qu'on fera une émission là-dessus aussi.
Ouais.
Alors la loi est promulguée le 17 janvier 1975 et finalement ce qui est intéressant aussi de savoir c'est que la loi 1920 elle n'en est pas pour autant abrogée. Voilà, alors après Simone Veil c'est Monique Pelletier qui devient ministre déléguée à la condition féminine et qui va défendre de nouveau la loi, donc pour l'améliorer d'ici les 5 ans à venir. Alors 5 ans après elle est effectivement définitivement votée mais peu modifiée. Bah donc c'est une victoire et en même temps pour certains et certaines personnes, c'est en demi-teinte, ouais. C'est quand même pas terrible. Et puis en plus, il y a toujours cette idée que du coup on donne tout pouvoir aux hôpitaux et aux médecins, mmh, alors que c'est quelque chose qu'on pourrait très bien faire nous-mêmes. Voilà, enfin ou en tout cas qu'on pourrait nous donner le droit de le faire soi-même. Alors, en 1976 aussi, il y a un truc intéressant, c'est que les hôpitaux ont pour obligation d'ouvrir un centre IVG pour une meilleure application de la loi. Donc là, c'est pareil, on peut se demander où ça en est aujourd'hui, parce que... voilà, allez voir les hôpitaux un peu autour de chez vous, et je pense qu'on peut tous se rendre compte que c'est pas du tout le cas.
Je crois qu'il y en a plus d'une centaine là en France confirmées en 10 ans.
Ouais.
C'est dingue.
Ah ouais, c'est dingue. Ben voilà, du coup, en fait, on arrive comme ça à la fin de cette deuxième vague, avec cet acquis emblématique quand même, ce droit à l'avortement. Et puis avec la gauche qui arrive au pouvoir en 1981. Voilà, mais ça du coup, on en reparlera pour la troisième vague.
Oui, le bilan, il est...
Le bilan de la deuxième vague.
Le bilan. Il y a eu ces acquis qui ont vraiment changé... il y a des réels quand même changements sociaux ensuite qui ont pu se faire là-dessus. Les pratiques, les femmes, elles vont avoir plus de partenaires, elles vont diversifier les pratiques. Et du coup, grâce aussi, entre autres, IVG contraception, l'institution familiale, elle va aussi se transformer beaucoup à ce moment-là. Il y a moins de mariages, moins d'enfants, plus de divorces... et puis plus de familles dites différentes, donc les familles recomposées, monoparentales, homoparentales, qui vont, leur nombre va vraiment augmenter à partir des années 80. Voilà, c'est un moment où il y a, bon ça on en reparlera aussi, une progression de l'industrie du sexe, et puis voilà, l'idée de consentement qui arrive, l'égalité, l'idée d'égalité, etc. Mais avec aussi tout le mauvais côté des choses, les récupérations institutionnelles de tout ça qui ont eu lieu dans les années 80... avec, voilà, il y a eu une récupération aussi de ces mouvements-là qui n'a pas toujours été très très bénéfique. Et on n'a pas le temps de développer.
Non, mais comme on a plein d'autres émissions à faire.
Voilà. Cela dit, on a le temps d'écouter encore un petit morceau. Et puis après, on va parler de 2-3 autres bricoles aussi. Restez avec nous. On va écouter.
Anne Sylvestre ?
Ouais. Non, tu n'as pas de nom, c'est ça.
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège. Ou quel doute sortilège, non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Savait-il que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom, déjà tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien de victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort et c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Du coup, on va pouvoir vous donner une petite bibliographie et filmographie. Et puis plein de trucs à aller chercher un peu partout.
Ouais.
Qu'est-ce que...
T'as utilisé quoi, toi, comme livre ?
Ah bah toujours ma petite bible, Le féminisme au-delà des idées reçues, de Christine Barr. J'ai utilisé aussi Liberté, sexualité, féminisme, 50 ans de combat du planning pour le droit des femmes, qui est une petite perle aussi, qui retrace toute l'histoire du planning familial, avec tous les mouvements qui l'ont entouré.
Par rapport à l'avortement, il y a une BD qui s'appelle Le Choix,
oui,
qui est vachement bien, qui est éditée à La Ville Brûle.
Édition féministe.
Ouais, édition féministe. Et vous, donc c'est une BD voilà, qui retrace une histoire personnelle sur fond d'histoire politique. Et il y a à la fin de la BD beaucoup de documents historiques, des interviews. Et il y a même un croquis avec le contenu de la mallette Carman.
Voilà.
Vous pouvez presque apprendre à faire une aspiration vous-même. Donc voilà, il y a plein d'interviews, de documents d'époque et tout. Et c'est vachement bien.
Ouais, donc Le Choix de Désiré et Alain Frappier.
Voilà. Moi, j'ai utilisé le... Non, t'en avais un petit... Ah mais oui, t'as un film.
Oui, j'ai un film, mais si tu veux finir sur les livres, qu'on fasse un peu les choses dans l'ordre, quand même.
Moi aussi, j'ai mon petit Christine Barr personnel. Ouais. elle vient de le sortir. C'est un dictionnaire des féministes. Ça fait seulement 1700 pages.
Oui,
en
ça
même
va.
Temps, c'est un dictionnaire, donc ça se consulte vraiment comme un dictionnaire et on y trouve tout, quoi. Tout, et puis ça concerne pas que la France, c'est vraiment une échelle mondiale et historique, géographique et historique hyper large, quoi. Et on apprend vraiment beaucoup de choses là-dedans. Je l'ai beaucoup utilisé. Je vous invite à lire Le Deuxième Sexe, hein, de Simone de Beauvoir.
Justement, j'allais dire quand même, dans les bouquins, il y a quand même tous ceux qui ont été écrits à cette période-là, dans les années 70, de Gisèle Halimi, il y a La Cause des Femmes aussi. Le Deuxième Sexe. Il y a Benoît de Groult aussi, dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui a écrit Ainsi soit-elle, notamment.
Et puis on peut retrouver les discours de Simone Veil et de Lucien Neuwirth, les discours qu'ils ont présentés à l'Assemblée pour défendre leur loi, qui sont reproduits tels quels dans une petite édition de poche chez Point Seuil. Et c'est des petits bouquins, genre les petits bouquins à 2,50€ là.
Ah oui, Librio.
Voilà, Librio ou Point Seuil.
Ouais.
Point quelque chose. Et donc là, il y a les discours. Donc c'est pas mal. Puis en termes de film, toi, t'en avais un à conseiller.
Et oui, Une affaire de femme de Claude Chabrol dans les années 80, je crois qu'ils ont réalisé ça. C'est l'histoire, grosso modo, d'une femme qui a son mari qui revient de la guerre. Et puis en fait, elle se rend compte qu'elle aime plus trop et puis qu'elle a plus trop grand-chose à faire avec. Et puis en plus, elle découvre son talent d'avorteuse. Voilà, c'est joliment dit par rapport à tout ce qui se passe dans le film. Voilà, et du coup, c'est son histoire, assez banale et en même temps qui finira pas très très bien sur toutes ces femmes qui avortent et puis sur elle qui est avorteuse.
Et puis, regarde, elle a les yeux grands ouverts ou grands ouverts ? On s'est posé la question. C'est donc un documentaire sur un groupe du MLAC justement qui pratiquait
l'avortement
et accouchement à la maison à Aix. En Provence, c'était le groupe d'Aix qui faisait ça. Et donc c'est un docu là-dessus. Donc vous avez un mois pour lire tout ça.
Voilà, on en reparle.
Interrogation dans un mois. On va faire un truc qu'on n'a pas fait dans la première. On va faire un point actu.
Ouais.
Non, c'était juste histoire de parler de ce qui se passe en Belgique en ce moment, toujours par rapport à l'avortement. Il faut savoir qu'en Belgique, l'IVG reste un délit. Il n'a pas été autorisé, en fait. C'est un article qui s'appelle l'article 350 dans le Code pénal qui considère l'IVG comme, je cite, « un délit contre l'ordre des familles et la moralité publique ». Voilà. Donc, l'IVG est toujours un délit en Belgique. C'est pas à l'autre bout du monde, c'est juste à côté. Et il y a eu une loi en 1990, en fait, alors vous allez voir à quel point c'est hypocrite ce qui se passe en Belgique, c'est qu'en 1990, il y a une loi qui ne légalise pas du tout l'IVG, mais qui suspend les poursuites légales. C'est-à-dire que...
c'est quand même chercher fou. L'erreur.
Alors, il suspend les poursuites légales à condition que ce soit avant 12 semaines, donc comme en France, et que ce soit pratiqué dans des centres IVG. Donc c'est quand même parfaitement hypocrite quand même cette histoire. Donc c'est un délit excusé en fait. C'est un délit excusé et il y a des centres IVG, etc. Mais c'est pas un droit en fait. Et c'est ça qui est problématique. Et donc elles viennent, ils viennent de... le 7 mars, là, ils ont sorti, eux aussi, l'équivalent du manifeste des 343, mais ils ont sorti le manifeste des 350 en référence à ce fameux article 350, là, le 7 mars dernier. Voilà, signé par plein de gens. Donc on espère qu'en Belgique, cette IVG va devenir un droit et non plus un délit excusé. On va vous laisser, on va écouter une petite chanson d'Agnès Bill, L'enceinte vierge, qui parle d'avortement, qui est super. Alors écoutez-la, nous on va vous dire au revoir.
Oui.
On va vous dire au mois prochain.
Au mois prochain, on pour va la parler, troisième vague.
Par exemple, de la troisième vague. Voilà, on va essayer de faire une émission pas longue, ça va être un casse-tête. Et puis en attendant, vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site d'Antenne Doc ou sur Arte Radio, donc l'audioblog Superlatif d'Élise, au pluriel, bien sûr. Et vous pouvez aussi nous écrire sur notre boîte mail si vous avez des remarques. Donc c'est superlatifdelis@riseup.net.
R-I-S-E-U-P.
Et on écoute Agnès Bill, L'enceinte vierge. Au revoir.
Salut.
Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très Saint-Père a dit, faut faire des gosses, même ce repos. Ils iront vite au paradis, de toute façon ici, il n'y a pas de boulot. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Partout on crève, mais c'est une chance. Et puis faut bien se faire une raison. Au moins ça limite les naissances. Sans cette damnée contraception. Bien sûr, les viols font une moyenne. Faut se résigner, surtout rien dire. Que naissent les gosses de la haine, pourvu qu'ils soient faits sans plaisir. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. On parle de vice et de péché, et on excise des gamines, pourvu qu'il y ait frigidité. On peut pas dire que ce soit un crime. Faut pas croire que ce soit de l'esclavage, puisqu'elles ont le droit de prier Dieu. Dans les liens sacrés du mariage, si ça fait mal, qu'elles ferment les yeux. Dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Faire des mômes, c'est pas un loisir. Faut que les mères pondent sans conviction. Mais si elles peuvent pas les nourrir, c'est plus prévu par la religion. De toute façon, elles n'ont qu'à se laisser faire et se soumettre au testament. Se montrer dignes de leurs ovaires et se laisser engrosser sagement. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ceux qui ont de la moralité montent des gangs, des commandos. Pour faire naître ceux qu'ils vont taxer, plus tard d'être des enfants de salauds. Les bien-pensants, les bonnes chrétiennes vont s'occuper de ces petites garces. Le temps qu'éclosent leurs mauvaises graines, qu'on oublie après à la dasse. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ils se protègent sous leur tonsure et revendiquent leur petite calotte. Sans doute pour eux que c'est plus sûr que de nous laisser mettre des capotes. Pas la peine d'avoir son certif, pour nous faire docilement gober. Satan et ses repositifs, comme tous ceux qui l'ont bien cherché. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Le seul virus qui soit bien vu, c'est l'église, c'est la religion. Fais gaffe à toi si tu l'as plu. On te pardonne mal ta guérison. Ces malades-là sont sanctifiés. Au ciel, y a plus de phase terminale. Et martyr, c'est bien mieux payé que travailler seul à l'hôpital. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Hey. Dis monsieur, je te crois pas. T'oublies qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Jamais la Vierge n'avortera. On la fête sainte, pas faiseuse d'ange.